Oui, c'est un plaisir d'être parmi vous et merci beaucoup pour l'invitation. En parlant du Valais, de son développement, nous avons dans 15 jours l'occasion d'accueillir une demi-douzaine d'étudiants de l'Institut Emmaüs, qui est au-dessus de Vevey, Saint-Légier. Ils passeront 8 jours avec nous et là, nous avons toutes sortes de choses à leur proposer en église, où ils pourront vivre effectivement les réalités quotidiennes de la vie catholique en Valais. Ça n'est pas peu de choses. Être sur les marchés, faire du porte-à-porte, faire des sondages, et puis on aura tout ceci aboutira à 2 soirées d'évangélisation, avec d'abord un film sur la nature, et puis ensuite une mise au point sur le créateur de la nature, c'est-à-dire que bien souvent, évidemment, comme beaucoup, nous adorons la nature au lieu du créateur de la nature, et ce sera une bonne occasion non seulement d'attirer du monde, mais aussi de mettre, bien sûr, pourquoi pas, les choses au point. Dans ce domaine, les catholiques sont assez piétistes, on va dire, même si leur foi est dénaturée par toutes sortes de traditions. Mais au moins, quand on parle de Dieu, on a un écho qui résonne peut-être davantage que dans les milieux réformés protestants. Ceci pour ne jeter la pierre à personne, mais c'est juste pour faire un petit état des lieux. L'église de Montet vous salue beaucoup. Vous ne la connaissez pas, elle est bien plus modeste que la vôtre, mais elle sert le Seigneur avec joie. Voilà, je change de lunettes parce que vous savez, après quelques années, on a peut-être besoin parfois de rectifier et j'ai même pris avec moi une loupe. Dieu règne. Il domine sur les nations, sur les peuples. Il n'est surpris par rien et rien ne peut le surprendre. Même Jésus crucifié n'a pas été une surprise pour Dieu. Tout à l'heure, nous allons nous rappeler ce mémorial avec joie, et ceci était totalement inclus dans le plan de Dieu pour nous. Et je vous invite évidemment à lire avec moi le psaume 46. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles au psaume 46. Il est affiché, j'espère que chacun peut le lire. On va le garder affiché parce qu'il va résonner assez particulièrement lorsque nous aurons l'occasion de traiter un texte qu'on va dire parallèle, ou plutôt où ont été effectivement tirés certains éléments qui ont formé ce psaume. Mais lisons le psaume 46 du chef des chœurs des fils de Corée sur Alamoth. Chant. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Dieu très haut. Dieu est en son sein, elle ne vacille pas. Dieu la secourt à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur, la dévastation qu'il a semée sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc. Il rompt la lance. Il met le feu au char. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Les fils de Corée. Alors, selon l'identification que j'en ai faite, les fils de Corée sont issus de la tribu de Lévi. Ils étaient portiers du temple, vous pouvez lire éventuellement ça dans 1 Chronique, chapitre 26, le verset 1, classe des portiers pour les Coréites, Meshelemia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaph. Azaph qu'on connaît puisqu'il a aussi souscrit à certains psaumes dans le recueil. Alors, quelle est l'époque approximative de rédaction de ce psaume? Très difficile de l'affirmer, cependant, après David, certainement, puisqu'il est question du temple dans ce psaume. Personnellement, mais je prends peut-être un risque, je penche pour le règne de Josaphat, soit premier siècle après le roi, soit un siècle après le roi David, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ceci pour plusieurs raisons, plusieurs éléments dans les psaumes, effectivement 46 à 48 des fils de Corée influencent mon choix. Et nous aurons l'occasion d'en relever divers aspects historiques relatés dans le texte biblique en 2 Chroniques chapitre 20. Alors comment se décline le psaume qui est un cantique, un chant sur Alamot? Alors premièrement, difficile de cerner ce qu'est Alamot. Qu'est-ce que c'est qu'Alamot? Un instrument de musique? Un mode de chanter? Les commentaires ne sont pas vraiment formels à cet égard. Ce que nous pouvons dire, parce que c'est écrit, c'est que ce psaume se décline en trois phases distinctes, rythmées par des pauses. Trois couplets, en somme, qui se recoupent et qui se complètent. Alors, quels sont les trois temps, les trois cadences de ce cantique et quel titre pourrait-on leur donner? Bien, je vous propose ceci. Premier verset, présentation. Les versets 2 à 4, certitude dans l'épreuve. Versets 5 à 8, l'assurance d'être du côté de celui qui est vainqueur. Versets 9 à 12, contemplation des œuvres de Dieu. Et puis, certitude finale. Je vous propose ceci. Nous nous levons et nous lisons le psaume en respectant le rythme, c'est-à-dire en gardant les pauses qui servaient soit à des moments musicaux, soit simplement à réfléchir sur ce qui avait été lu. On fait ça? On se lève et on lit ensemble le psaume. Du chef de chœur des fils de Corée sur Alamot, chant. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein, elle ne vacille pas. Dieu la secourt à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur, la dévastation qu'il a semée sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu aux chars. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Merci. Mais gardons ce psaume sous les yeux. Il va nous servir tout au long de cette prédication. Ce psaume et les deux suivants, donc 47 et 48, qui sont aussi des fils de Corée, ces psaumes que nous ne lirons que très succinctement, ne sont-ils qu'une vaste métaphore dans le genre poétique, poème tiré de l'imagination de son auteur ou de leurs auteurs, ou fait-il référence à des faits concrets, historiques? Exemple, quand le psalmiste dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse ». Le psalmiste transmet-il des généralités ou s'appuie-t-il sur des circonstances précises? Pour tenter d'y répondre, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Et on va parcourir, simplement par la lecture, une grande partie de ce chapitre, et vous allez garder sous les yeux le psaume 46. Et peut-être qu'il y a des éléments là qui vont surgir d'emblée. 2 Chroniques, chapitre 20. Les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à En-Gedi. » Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance ? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, qui t'aimait ? Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant « S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Maintenant voici que les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yehiel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Yahaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont arriver par la montée, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés, lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Il disait, « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. » Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude, et voici, ce n'étaient que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes et des trompettes jusqu'à la maison de l'Éternel. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Alors ce texte me paraît d'une grande importance parce qu'il y a des résonances avec le psaume 46. Vraiment flagrantes. Premièrement, ce n'est pas la guerre des Judéens, c'est celle de l'Éternel. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et puis si votre curiosité vous pousse à regarder le psaume 47, vous vous souvenez que nous avons lu que les Coréites et les Kéatites avaient, certains étaient chantres, d'autres portiers, poètes, et s'étaient levés pour louer l'Éternel, et voici qu'au psaume 47, nous pouvons lire « Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre, il nous soumet les peuples, nations sous nos pieds, et il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. » De nouveau, des résonances avec 2 Chroniques 20. Alors je vous l'ai dit, je prends un risque, parce que je n'ai pas lu de commentaires à ce propos, qui cautionnait mon choix de ce 2 Chroniques 20 en rapport avec les psaumes 46, 47 et 48. Mais toutefois, je pense qu'il y a là matière à réflexion par rapport à ce que nous pouvons tirer de ces textes. Alors, comment Dieu est-il présenté dans ce cantique des fils de Corée ? Tenons-nous-en maintenant au psaume 46. Ce qu'il est, son caractère en quelque sorte, comment est-il présenté selon ce texte ? Prenons verset après verset et synthétiquement, essayons de trouver ce que le caractère de Dieu nous est... quel trait du caractère de Dieu nous est révélé là. Premièrement, Dieu est un abri, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. Dieu est un protecteur au verset 2. Dieu est également un protecteur au verset 3 et 4, un rocher sûr et solide. Au verset 5 et 6, Dieu règne souverainement, nous est-il dit, au centre de ses demeures, au centre de ses demeures. Au verset 6, Dieu, au centre de ses demeures, y exerce un secours dès le matin. Verset 7, Dieu règne au-delà du centre de ses demeures. Il s'exporte également. Au verset 8, Dieu est avec nous. Et il est pour nous une citadelle et une haute retraite. Verset 9, Dieu est un juste juge. Il ne vous surprend pas ce verset, venez regarder les œuvres du Seigneur, la dévastation qu'il a semée sur la terre. Dieu est-il l'auteur du mal ? Non, mais Dieu est un juste juge. Et vous pouvez lire dans la Bible, quand Dieu juge le péché, c'est une dévastation. À titre d'exemple, le déluge. Dieu est amour, mais il est aussi un feu redoutable. Et on a lu dans 2 Chroniques, c'est la guerre de l'Éternel, et vous avez vu ce qui est arrivé aux Moabites, aux Ammonites, aux habitants des monts de Séir, sans que Juda n'ait eu à lever les armes. Dieu juge. Et lorsqu'il juge sa dévastation, la dévastation qu'il a semée sur la terre est redoutable. Verset 10, Dieu est puissant. Verset 11, Dieu est l'Éternel. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Verset 12, Dieu est l'Éternel des armées. Verset 12 encore, Dieu, l'Éternel des armées, est avec nous. Et verset 12, enfin, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle et une haute retraite. Alors après une telle analyse, en quel autre Dieu suis-je encouragé à me confier? Y a-t-il Dieu plus grand que ce Dieu décrit là? Nous comprenons un peu dans ce cantique ce que Dieu est, ce qu'il fait. Le Dieu d'Israël est un Dieu fort. Le Dieu d'Israël est un Dieu fort qui offre sa grâce et sa protection. Le Dieu d'Israël est un Dieu fort qui offre sa grâce, sa protection, sa bienveillance et sa bénédiction. Et Exode chapitre 20 et chapitre 34 nous dit ceci, il offre sa bienveillance et sa bénédiction jusqu'à 1000 générations pour ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements, c'est-à-dire pour ceux qui lui confient leur vie. Mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, il le punit de ses fautes, les fautes des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3, voire la 4e génération. Voilà notre Dieu. Dieu juge, certes, mais Dieu de grâce, de compassion, de bienveillance et de bénédiction. Et il est à noter que Dieu n'exerce pas systématiquement sa protection. Dieu n'exerce pas systématiquement sa protection. De même que sa présence, son secours, sa bénédiction sont liés à des conditions précises. Précise et précisée. Précisée où? Dans sa parole. Par des ordonnances, des directives, des lois. Moi-même, ton serviteur, disait David, je suis averti par elle, par ses ordonnances, par ses lois. Et il continue par dire, pour qui les observe, l'avantage est grand. Pour qui les observe, l'avantage est grand. C'est le psaume 19 et le verset 11 qui dit ceci. Dieu est un abri, un appui, une citadelle, une haute retraite, une forteresse, un secours bien présent dans la détresse. Oui, il l'est. Il l'était pour les Judéens, les habitants de Juda, à l'époque de Josaphat. Il l'est pour moi. Il l'est pour moi. L'est-il pour toi? L'est-il pour toi dès le matin? Moïse, qui a écrit bien des choses, et notamment un psaume qui est ici recensé dans notre recueil, dit au verset 14, psaume 90, verset 14, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Est-ce que c'est pas beau? Je relis. Rassasie-nous dès le matin de ta présence. Tout à l'heure, José parlait du culte personnel. Rassasie-nous dès le matin de ta présence et nous serons triomphants. Pas triomphaliste, triomphant et joyeux en toutes nos journées. Merveilleux. Et les versets 5-6 résonnent un peu comme ceci, du psaume 46. Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures des Très-Hauts. Oui, du Très-Haut. Dieu est en son sein, elle ne vacille pas, donc cette cité. Et Dieu la secourt à l'approche du matin. Dieu la secourt à l'approche du matin. Dieu est mon abri, il est mon appui, il est ma citadelle, il est ma haute retraite, ma forteresse et mon secours dans la détresse, dans les bons comme dans les mauvais jours, je m'appuie sur lui. N'est-ce pas vrai? Est-ce vrai pour toi? C'est vrai pour moi, et je le souhaite que ça le soit pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi je n'ai pas peur quand les montagnes vacillent, quand la terre tremble au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Je n'ai pas peur. Et ces versets 2 à 4 sont une forme poétique de toutes sortes de calamités que l'on peut rencontrer, où que ce soit, sous quelque latitude que ce soit, dans quelque situation que ce soit. Je n'ai pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Je n'ai pas peur. Il existe beaucoup de citadelles, vous savez, beaucoup de citadelles qui, à première vue, semblent offrir une forme de sécurité. Au moins, c'est ce qu'elles laissent prétendre. Et cependant, y regarder de plus près, ces citadelles, en guillemets, n'offrent toutes qu'une assurance à bon marché. Ce qui ne correspond à aucune assurance, aucune protection du tout. J'aimerais en prendre quelques-unes de ces pseudo-citadelles à titre d'exemple. Prenons la religion, une citadelle qui nous procure sécurité, espérance. Non, la religion n'offre aucune protection. Aucune. Je vais citer quelques versets, j'aurais voulu les afficher, vous pouvez prendre simplement les références des versets, les relire gentiment chez vous. Par rapport à la religion, voici ce que dit le Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. Au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout, dans les synagogues ou des grandes rues, pour se montrer aux gens. En vérité, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Verset 7, Matthieu 6. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dans le catholicisme, on va à confesse, et puis le prêtre nous dit, après nous avoir absous de nos péchés, tu récitera, dis je vous salue Marie, trois notre Père. Et là je lis, en priant ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Vous voyez comme la religion peut parfois offrir des formes, mais qui ne sont que des formes et qui n'offrent aucune protection. Paul pouvait dire en Tite chapitre 1 verset 16, ils déclarent connaître Dieu mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute bonne œuvre. Et je ne parle pas que d'une certaine religion, je parle de toutes les formes religieuses dans ce monde qui osent prétendre qu'elles connaissent le chemin, la vérité et la vie. Or, nous savons par l'Écriture que Jésus seul est capable non seulement de le déclarer, mais d'assumer cette déclaration. Donc la religion propose des formes mais n'offre aucune protection, hélas. Une autre citadelle, la richesse. La richesse n'offre aucune certitude non plus. Elle peut contribuer momentanément à un certain bonheur, soit. Mais aucune certitude. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Luc, chapitre 18, verset 23, on est dans l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, lorsqu'il entendit les conditions exprimées par le Seigneur Jésus pour hériter la vie éternelle, s'en alla très triste car il était fort riche. Proverbe 8, verset 18, « Avec moi, dit Dieu, avec moi, il y a richesse et gloire, bien durable et justice. » La richesse n'offre aucune garantie, aucune, mais souvent ennui et déception. Troisième citadelle, derrière parfois lequel on peut se cacher avec la certitude ou l'espérance ou l'espoir que les choses pourront bien tourner. La beauté. La beauté ne garantit absolument rien du tout, surtout pas de protection contre aucune catastrophe. Proverbe 31:30, la grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Réciproquement pour les messieurs. Jacques, chapitre 1, verset 11, le soleil se lève et sa chaleur brûlante dessèche la plante. Sa fleur tombe et sa beauté disparaît. De même nous. La beauté physique n'est pas un gage de sécurité, éventuellement un atout supplémentaire pour une demande en mariage. Et encore. Et que dire du travail ? Le travail ne garantit strictement aucune protection passagère et ou éternelle. Proverbe 12:27, oui, le bien précieux d'un homme, c'est son activité. Par opposition aux paresseux qui ne rôtissent même pas son gibier. Mais gardons-nous d'en faire une idole et rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au jour du malheur, de la crise, le travail ne nous garantit rien. Il ne peut rien contre nous. Et que dire encore de l'autosuffisance, qui est une forme de citadelle qui ressemble fort à de l'autonomie qui pourrait prendre la forme, parfois, de l'orgueil. Une sorte de liberté déguisée, pouvons-nous dire. On ne veut pas avoir de compte à rendre à personne, on ne s'engage pas ou du bout des lèvres. C'est une mauvaise conception de la vie et de la foi. La Bible nous dit ceci en Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Et libre de quoi ? Eh bien, libre d'aimer et de servir mon prochain. Donc l'autosuffisance, non, n'est pas une citadelle suffisante pour m'offrir la sécurité. On pourrait parler du séparatisme, qui est une discrimination, qui est aussi un type d'orgueil. 3 Jean 9, j'ai écrit quelque chose à l'Église, mais Diotrephe, qui se plaît à être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. La discrimination. Et ce à quoi l'apôtre Paul répond dans une lettre aux Philippiens, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 1, verset 27, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On pourrait encore parler de l'activisme ou de l'idolâtrie qui est une abomination qui nous condamne et donc ne nous sert à rien si ce n'est à nous mettre en péril. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Absalom, fils de David, était amoureux de lui-même. Dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 25, il nous est dit « Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. De la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. Il en est mort, le pauvre. » Et nous pourrions encore parler de la popularité, du talent, du pouvoir, de la santé, de la retraite, la connaissance, la reconnaissance identitaire qui nous fait parfois prendre des décisions ou des options pour le moins contradictoires. Toutes ces citadelles qui pourraient se targuer de nous servir de forteresse, d'assurance, d'appui solide, d'encre sûre, de secours, demeurent en vérité des leurres, des mirages, des pièges et des artifices. Et pourquoi ? Parce que Dieu règne. Et parce que Dieu est jaloux de son nom. Parce que Dieu règne et parce qu'il domine. Où domine-t-il ? Sur la terre, parmi les nations. Selon le psaume 46. Mais depuis la nouvelle alliance, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu est souverain. En toute chose, Dieu est souverain. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, nous dit le psaume 115, verset 3. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Voici, tout pouvoir m'a été donné, a dit le Seigneur Jésus, sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Oui, Dieu est jaloux de son nom et il est jaloux aussi de l'esprit qu'il a mis en nous. Et si Dieu est amour, si Dieu est bienveillance, si Dieu est bénédiction, Dieu est aussi un feu redoutable. Et l'esprit qu'il a mis en nous, il le garde très jalousement. Et n'éteignons pas l'esprit que Dieu a mis en nous. Au contraire, vitalisons-le avec une vie donnée, engagée, qui lui plaise, qui lui plaise. Et faisons-lui confiance. Dieu seul est pour nous un abri, un appui, un secours bien présent dans la détresse. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en les soulevant. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute citadelle. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute citadelle. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, un jeune homme emprunta un disque pour écouter l'enregistrement d'un des discours de Winston Churchill. C'était celui où le Premier ministre promettait aux Anglais la victoire. Même s'il devait combattre sur les plages, sur les toits, dans les rues. Malencontreusement, un jour, le disque se raya et les auditeurs furent étonnés d'entendre la voix de Winston Churchill répéter sans fin « Nous aurons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. » Certains auditeurs murmurèrent de déception. D'autres éclatèrent de rire, mais le silence se rétablit quand la puissance des mots entendus leur apparut. La victoire, la victoire, la victoire. Les faits ultérieurs prouvèrent leur efficacité. Ce n'était pas de l'autosuggestion, ce n'était pas une méthode couée, c'était une garantie. La guerre allait se terminer par la victoire contre les ennemis. Et nous n'avons pas à combattre pour la victoire, nous avons à nous mettre du côté de la victoire. Parce qu'il est victorieux celui qui règne. Et nous pouvons simplement nous mettre du côté de celui qui est la victoire, qui l'a acquise par son sang sur la croix de Golgotha. Quel fait mémorable! C'est par son sang qu'il a établi une alliance nouvelle, éternelle, dans laquelle nous sommes tous invités à entrer. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes séparés de Dieu. La bonne, c'est qu'il a tout accompli pour que nous puissions être à lui. Laquelle voulons-nous adopter? Rester dans la mauvaise et faire un constat de plus? Ou bien entrer dans la nouvelle et se réjouir d'être du côté de la victoire? Avant de conclure, j'aimerais juste encore traiter d'un aspect qui se présente parfois comme une forteresse, une citadelle, un abri sûr, un rocher fort et solide, croit-on. Une forme dont on se sert assez volontiers, supposant nous mettre à l'abri de mauvaises surprises ou de lendemains difficiles. J'ai nommé le compromis. Le compromis, qui est un accommodement, un arrangement, un accord qui sonne parfois de manière terriblement disharmonieuse, mais qui exerce toujours sur nous, étape après étape, un attrait particulièrement séduisant. Étape après étape. C'est pas l'orage dans un ciel bleu. On entre dans le compromis par de petits compromis. Le compromis a ceci de foncièrement dangereux. Il remet en cause l'intégrité et donc la vérité. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est par ce genre de phrase que le compromis entre dans notre esprit et notre raisonnement. Dieu a-t-il vraiment dit ? Le compromis est capable de nous endurcir au point de nous perdre. Le compromis compromet dramatiquement. J'en veux pour exemple la fin de la vie de Josaphat. Prenez avec moi 2 Chroniques, chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 31. Nous sommes donc à l'issue de cette bataille dont ils sont sortis victorieux. Et je vous rappelle que, ayant eu peur, Josaphat chercha l'Éternel. Josaphat, verset 31 de 2 Chroniques 20. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et régna 25 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Azuba, fille de Shili. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple n'avait pas encore leur cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Josaphat avait hérité d'une situation qu'Asa, son père, avait déjà héritée, celle des hauts lieux où on louait l'Éternel dans des lieux qui étaient plus représentatifs de lieux idolâtres que de vraiment de lieux où l'Éternel était adoré en toute vérité. Enfin voilà, il faut des fois plus d'une génération pour faire passer ce genre de choses, et Josaphat y a travaillé sans y parvenir. Toutefois, verset 35, après cela, donc on a l'exemple d'un Josaphat qui est un roi intègre. Verset 35, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Compromis. Il s'associa avec lui pour construire des navires qui devaient aller à Tarsis. Ils construisirent ces navires à Ezion-Geber. Voilà, nous en sommes. Josaphat est à la fin de sa vie. Il s'associe avec un roi impie, lui qui a cherché l'Éternel et auquel l'Éternel a répondu avec bienveillance. Il est associé avec un roi impie. Il fait construire des bateaux. Pourquoi faire ? Tournez avec moi dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Et nous lirons à partir du verset 49. 1 Roi 22, 49. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Donc il allait chercher de l'or, et qu'est-ce que cela sous-entend ? Qu'il cherchait à s'enrichir, probablement. Mais on n'y alla pas, parce que les navires se brisèrent à Ezion-Geber. Et pourquoi les navires se brisèrent à Ezion-Geber ? Retour à 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 37. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 37. Alors Eliezer, fils de Dodavahu, de Maréchal, prophète, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre, les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. » Dieu est jaloux de l'esprit qu'il met en nous. Il est capable de mettre un rempart, un obstacle devant certains de nos choix. Louons-le pour cela. Louons-le pour cela. C'est l'expérience de Josaphat. Heureusement, il aurait pu se fourvoir de manière dramatique et avoir une fin de vie lamentable, sous prétexte de s'enrichir. Mais l'Esprit de Dieu, Dieu est jaloux de son nom, et l'Esprit qu'il met en nous, il le garde de manière jalouse. Alors, Akasia n'en est pas à sa première tentative, puisqu'il va essayer encore de soudoyer Josaphat. Retour à 1 roi 22, si vous voulez bien. Au verset 50, 1 roi 22, verset 50. Alors, Akasia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires. » Les nôtres sont brisés, mais que des serviteurs et les miens allent sur des navires. Et qu'a dit Josaphat? L'Écriture nous dit que Josaphat ne voulut pas. Il avait appris le prix de son compromis. Et ce qui est intéressant, c'est que le psaume 48 semble répondre en écho à cet incident, puisqu'au verset 5 du psaume 48, nous lisons « Voici que les rois s'étaient concertés. Ils se sont avancés ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, épouvantés. Ils se sont sauvés. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui enfante. » Moi, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment vrai. « Comme le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. » Voyez, comme tout se recoupe dans l'Écriture. Dieu veut parvenir à nous faire comprendre qu'il y a un chemin à suivre, que ce chemin est étroit et droit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, nous dit la parole de Dieu. Le compromis ne dessert jamais le but que l'on poursuit. Ou alors, s'il le dessert, c'est à un prix souvent élevé, dramatique. Darwin, le père de la théorie de l'évolution, a reçu une lettre de son épouse qu'il a gardée sur lui jusqu'à sa mort. Voici ce que disait cette lettre, lettre de sa femme. Elle lui écrit qu'il ne peut pas avoir tort de tenter sincèrement de découvrir la vérité. Il venait de publier ses thèses. Mais elle lui dit aussi de faire attention à ne pas se détacher de ce qui n'est pas de nature scientifique, de ce qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire de ne pas se détacher de la foi qu'il avait reçue de ses pères. Dans les années 1820, 1830, ou peut-être même avant. Et voici ce qu'elle dit, « Je serais extrêmement malheureuse si je pensais que nous ne nous appartenons pas l'un à l'autre pour l'éternité. » Elle voulait dire par là, « Mon cher mari, que ces thèses soient publiées, certes, mais que ce ne soit pas un compromis suffisant ou nécessaire pour te faire perdre la foi. Et je serais malheureuse de savoir que nous ne passerons pas l'éternité ensemble, que ces thèses vont te détourner de la foi au vrai Dieu. » Quelle lucidité! Quelle lucidité! Toujours bon d'avoir une femme à côté de soi qui nous encourage sur le chemin de la foi. Quelle lucidité! Et ce à quoi Darwin, qui gardera cette lettre et qu'on retrouvera sur lui après son décès, y a ajouté une phrase, écoutez bien, « Quand je serai mort, sache que bien souvent, j'ai embrassé et pleuré. » Sur ces mots. Voyez où le compromis peut nous mener parfois, des regrets amers. Eh bien, que Dieu nous garde de cela. Et en conclusion, je dirais, notre sécurité est en Dieu. Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi? Je ne désire rien sur la terre. On l'a chanté. Psaume 73, verset 25. Dieu a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité. Ce sont les dernières paroles de David, lui qui avait connu le compromis et le péché et l'abandon. De la part de Dieu, ah, en tout cas lui semblait-il, Dieu ne l'avait pas abandonné, mais lui semblait-il. Eh bien, Dieu a fait avec nous, par Jésus-Christ, une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Pourquoi irions-nous chercher ailleurs? Et pour terminer, les versets 13 à 15 du psaume 48, prêtez simplement garde aux termes, surtout aux verbes qui sont employés là, les versets 13 à 15 du psaume 48. Je lis. parcourez Sion et contournez-la, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses donjons pour le raconter à la génération future. Parcourez, comptez, observez, examinez pour le raconter. Et le verset 15, voilà le Dieu qui est notre Dieu. Dieu éternellement et à perpétuité, il sera notre guide jusqu'à la mort. Que Dieu soit loué, parce que même après la mort, il prendra soin de nous pour l'éternité. Merci de votre attention. Amen.